Sophie Moraz, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous retrouve dans votre yourte, puisque vous êtes enseignante de yoga et de méditation à Gradignan. Est-ce qu'on peut un peu décrire rapidement l'endroit dans lequel on est, qui est assez atypique ?
Tout d'abord, merci, Emmanuel, de me recevoir. Voilà, ici, on est dans une yourte traditionnelle mongole, qui est un lieu absolument charmant, qui invite justement à cette unité au centre. Quand on pratique le yoga, on apprend à se recentrer et en même temps, grâce à ce recentrage, aller dans cet esprit d'ouverture, de communion. Ce qui est très important ici dans la yourte, c'est quand on pratique, on est en prise avec la terre qui est juste en dessous de nous. Et puis ce tonneau de lumière là qui s'ouvre vers le ciel. Aujourd'hui, en plus, il y a un grand soleil, donc merci.
Donc, on me disait enseignante de yoga et de méditation depuis 26 ans aujourd'hui, mais je crois que ce n'a pas été votre premier métier, puisqu'auparavant, vous étiez éducatrice spé.
Oui, j'ai été... je peux me permettre, c'est une petite rectification. Ça fait 26 ans que je pratique le yoga, ça fait 10 ans que je l'enseigne, puisque, en fait, avant, j'étais éducatrice spécialisée, justement. J'ai travaillé en ITEP, Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, où j'accueillais des enfants avec des grandes difficultés. Et donc, c'est un métier qui m'a forcément amené à me rencontrer davantage. Dans cette relation aux autres, il s'agit de soi. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur moi et sur la vie, sur les gens. Et après, ce besoin de pratiquer le yoga personnellement. Et puis après, en 2009, j'étais diplômée. Et en 2010, j'ai commencé à enseigner. Mm-hmm. Et effectivement, j'enseigne, je suis spécialisée pour enseigner aux enfants, aux adolescents. Et depuis 4 ans, j'enseigne également la méditation.
Très bien. Justement, la pratique du yoga vous est venue, vous l'avez rencontré comment, le yoga ? Comment ça s'est fait ?
Alors, le yoga, j'ai commencé mon travail en 1989, et j'ai commencé le yoga en 1992, donc peu de temps après, puisque justement, j'étais amenée, dans ce travail avec les enfants, à rencontrer mes limites, mes difficultés, et que j'étais amenée à faire un travail en profondeur sur moi, et que j'ai fait un travail thérapeutique et un travail aussi de yoga. Voilà. Mmh. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté.
D'accord. On parle de différentes sortes de yoga. Est-ce que vous, vous en pratiquez une particulière ?
Alors moi, c'est vraiment un Hatha yoga, un yoga donc occidentalisé. Je suis formée sur 4 ans au yoga de l'énergie à l'EFISO, École française de yoga du Sud-Ouest. Donc j'enseigne ce yoga de l'énergie qui est très très intéressant puisqu'en fait, il est adapté à nos cultures occidentales, c'est-à-dire qu'en Inde, ils pratiquent depuis très longtemps, ils pratiquent de nombreuses heures, ce qui n'est pas notre cas ici. Et donc, le yoga que j'enseigne, c'est vraiment un yoga très respectueux, c'est-à-dire que j'invite encore plus particulièrement les gens à s'écouter, se respecter et aller plutôt en deçà de leurs limites, c'est-à-dire de ne plus forcer, de s'apercevoir que la respiration est le centre de la vie, c'est notre premier besoin, et que c'est grâce à l'écoute de la respiration que petit à petit, intérieurement, toutes les tensions vont se défaire, et que justement à un moment donné, le corps, les articulations vont s'assouplir, et qu'on va pouvoir aller vers un yoga plus physique. Mais d'abord, il y a tout ce travail d'écoute, de respiration, de non-attente, non-exigence. Les postures qu'on fait sur le tapis, c'est exactement les mêmes postures que l'on a dans la vie. Donc c'est tout cet apprentissage. C'est vraiment, c'est pas un yoga où on enchaîne des postures très, très dynamiques, non. C'est vraiment un yoga où il y a les 4 temps de la respiration et ce fameux regard intérieur dont parlait Roger Clair, qui est l'initiateur de ce yoga.
Donc au niveau des personnes qui participent à vos ateliers, vous avez des femmes, des hommes, mais je crois aussi des enfants.
Oui. Oui, alors j'accueille ici dans la yourte le mercredi après-midi un groupe d'enfants de 16h15 à 17h15. Ce sont des enfants qui viennent et qui, il y a plusieurs profils, mais des enfants qui ont envie de faire du yoga. Voilà, ça ne peut pas être que le souhait des parents. Il faut que l'enfant soit 100% partie prenante. Et c'est très ludique. Voilà. Par contre, il y a des rituels. Il y a un rituel de début et de fin de pratique avec le cercle de parole. Où chacun est amené à prendre la parole, s'exprimer. Et justement, la séance va être en fonction de ce que les enfants vont exprimer. Voilà. Donc, il y a toute cette richesse au niveau de la dynamique du groupe qui est passionnante. Ça, c'est avec les enfants. Avec les adolescents, ben ça c'est extraordinaire. C'est vraiment une période inconfortable, l'adolescence, souvent. Donc pareil, même principe. Les enfants, les jeunes sont amenés à se positionner. On commence toujours avec les mains devant le cœur en prière hindoue et on s'incline les uns envers les autres. Ça commence comme ça avec le cercle de parole, début et fin de séance. Et puis là, eh bien, on passe par des postures physiques, mais aussi par de la détente, de la relaxation, des automassages, du massage à deux. Et puis, avec les adolescents, je fais aussi du yoga de la voix, comme avec les adultes, comme avec les enfants aussi.
Alors, est-ce que vous les faites parler, chanter? Comment ça fonctionne?
Alors, parler, ça, oui, ça, ils adorent. Mais là, c'est carrément chanter et principalement les voyelles. A, O, I. On est vraiment, en fait, dans... Quand on fait du yoga, les postures nous amènent dans cette conscience de notre verticalité, dans ce rapport tertiel et de notre horizontalité, avec nos pères, hein, quand on ouvre les mains. Et le point d'intersection de ces deux directions, c'est le cœur. Donc quand on fait du yoga, à travers toutes les postures qu'on fait, on est dans l'ouverture du chakra du cœur. Quand on fait du yoga de la voix, c'est le chakra qui est au-dessus. C'est le chakra de la gorge, la communication. Et c'est comme si quelque part, dans ce chakra du cœur, on vient prendre conscience de tout cet amour pour soi, cet oxygène, toute cette lumière qu'on envoie à nos cellules. Et là, on a besoin de le transmettre, on a besoin de communiquer. Donc, c'est un travail très puissant et qui vient renforcer justement la confiance. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le yoga de la voix.
Ah, j'imagine. Et donc, ces jeunes adolescents, c'est une période, vous le disiez, un peu critique, justement, de vocaliser des voyelles. C'est pas perturbant un peu au départ? Enfin, ils se prêtent au jeu facilement, ça...
Oui, parce qu'au préalable, il y a tout un travail de relaxation qui se fait au sol, donc en connexion avec la terre. Et j'amène vraiment à des techniques de relaxation très, très profondes, beaucoup, beaucoup de bâillements. Et puis... C'est ma philosophie d'enseigner vraiment, justement, non attente, non jugement. On ne rentre pas en compétition avec soi-même, ni avec les autres. Et à un moment donné, justement, chacun donne ce qu'il peut donner. Et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'exigence. Donc, en fait, il y a une liberté. J'ai beaucoup de témoignages de jeunes qui disent, mais c'est le seul endroit où on n'a aucune attente. J'ai eu des très, très belles personnes qui sont venues ici. Des jeunes maintenant qui sont en Sciences Po, etc., avec des pressions scolaires, enfin personnelles, mais des jeunes brillants, et qui disaient que vraiment ici, c'est un lieu où il n'y a pas d'attente. Donc en fait, tout est là. Mm-hmm. Tout est dans... voilà, on ne court plus, on ne fait plus semblant, on est dans les profondeurs de l'être.
On n'est plus dans l'image ou le paraître.
Non, il y a tout un travail en profondeur, ce qui fait que ce qui sort au niveau de la voix, c'est stupéfiant. Voilà, on est vraiment en harmonie, en communion... Il y a des moments vibratoires qui sont assez exceptionnels.
Mmh. Bon, Sophie, je vous propose une pause musicale et puis on se retrouve juste après.
Merci.
Voilà, donc j'espère que la pause musicale vous aura plu. Donc on parlait de votre activité de yoga, on va dire. Est-ce que vous avez des retours par rapport aux adultes qui viennent? Qu'est-ce que viennent chercher ces personnes, ces adultes?
Alors effectivement, j'ai de très très beaux retours. En fait, je ne sais pas exactement ce qu'elles viennent chercher au départ. Je pense que c'est une recherche, c'est intime. Chacun a ses raisons de venir pratiquer le yoga. Certaines personnes viennent parce qu'elles ont envie d'apprendre à se détendre, parce qu'elles en entendent parler. D'autres viennent parce qu'il y a un malaise. D'autres viennent parce qu'elles sentent bien que voilà, il y a quelque chose certainement qui germe en elles et une aspiration. Les retours que j'ai, c'est extraordinaire. Les gens me disent que voilà, ça leur permet de vraiment lâcher les tensions, justement d'être dans cette non-attente. C'est une philosophie, le yoga. Donc, c'est tout cet apprentissage de venir se rencontrer dans les profondeurs, hein. En Inde, on dit que le corps est le temple de l'Inde, que le corps est le temple de l'âme. Et voilà, on a un temple. On n'a pas un temple, excusez-moi, on est un temple. On n'a pas un corps, on est un corps. Et je pense que ces personnes, ce qu'elles viennent comprendre et vivre sur le tapis de yoga, c'est voilà, ce rapport au corps. Voilà. Mmh. Ce corps est précieux, elles en prennent soin, elles apprennent. Enfin, je dis « elles » parce que souvent, la majorité, ce sont des femmes. Mais il y a quelques hommes qui viennent et c'est précieux. Mais voilà, on apprend à se découvrir. Parce qu'en fait, le corps, on s'en sert, on l'utilise sans s'apercevoir qu'en fait, c'est notre meilleur ami et que tout est possible grâce au corps. Voilà, et grâce à l'écoute de la respiration. Mmh. Donc, c'est un travail en profondeur. Des gens qui viennent aussi, je fais le lien avec le yoga de la voix, une élève qui venait à mes stages et qui, pendant 3 ans, ne sortait, ne pouvait pas sortir de son et qui, au-delà de sa séance quotidienne, venait à mes stages le samedi. Et là, c'est la 4e année qu'elle vient. Et elle me disait, « Sophie, je sais qu'il faut que je vienne. » Voilà. Et ça sortait pas, et ça sortait pas, et ça sortait pas. Et un jour, c'est sorti. Ça, c'est la magie du yoga. Donc, je crois qu'il y a vraiment, par contre, ce paramètre important de la non-attente et la notion de patience. Mmh. Voilà. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour qu'à un moment donné, il se passe quelque chose.
Mmh. Et vous, côté thérapeute, alors, qu'est-ce que de faire pratiquer ces activités-là à des gens, oui. Des enfants, ados, oui. Adultes, oui, 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 oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous avez, une conduite de vie particulière? Comment vous appréhendez justement cette rencontre avec l'autre autour du yoga?
Moi, ce que ça m'apporte, c'est j'ai pas de mots pour ça serait réducteur. Oui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup pratiqué le yoga, j'ai eu la chance d'avoir un professeur exceptionnel que je vais nommer, Michel Charles, qui enseignait à la MJC de Mérignac. Une personne exceptionnelle qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, qui m'a beaucoup appris, qui m'a aidée à me recentrer et à comprendre cette richesse de tous les pranayamas, les asanas, toutes ces richesses du yoga.
Qui sont, si on peut expliquer,
pranayama, ce sont des techniques respiratoires, mm-hmm. Voilà, bien précises justement pour amener tout cet oxygène dans nos cellules, dans nos organes, dans notre être, et qui sont extraordinaires. Les asanas, ce sont les postures en sanskrit. Moi, ces personnes, si vous voulez, c'est ce que je dis. De toute façon, je suis en interaction ici, dans la yourte, c'est un contexte particulier. On n'est pas dans une salle aseptisée. On est dans un lieu rond, voilà, et c'est un lieu où les gens échangent entre eux, voilà. En même temps, il y a un grand centrage et en même temps, on est dans l'ouverture. J'ai de très, très belles personnes qui viennent ici, donc je les remercie à chaque fin de séance parce que je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir enseigner à ces élèves. Hein. Et ils m'enseignent à leur tour, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est grâce à tout ce que j'observe de mes élèves, tous les retours. Donc, si vous voulez, je suis en permanence en échange avec mes élèves.
En partage?
Complètement. Mm-hmm. Dans le partage, dans le cœur. Et oui, je leur suis très, très reconnaissante. Mm-hmm. J'ai beaucoup de chance.
Dans votre contexte familial, vous oui. avez des enfants, Marie.
Oui.
Est-ce qu'ils sont adeptes même du yoga ou c'est votre truc à vous et
C'est mon truc à moi.
D'accord.
C'est mon truc à moi. J'ai 2 enfants. Mon fils, lui, était attiré par la relaxation, mais le yoga par lui-même, non, c'était pas son truc. Et puis, je crois qu'il avait aussi besoin de vivre ses activités à lui, en dehors de celles de maman. Mmh. C'était sa façon aussi de s'exprimer, c'est mmh. ça. Ma fille a pratiqué beaucoup, enfant, jusqu'à 10-12 ans. Et puis après, pareil, préadolescence, besoin de prendre ses distances. Je parle beaucoup de yoga à la maison, mais pour l'instant, mon fils est à l'étranger. Camille, elle entend les choses, mais ne pratique pas au quotidien. Puis mon mari non plus, lui, c'est un autre univers. Voilà.
Donc votre truc à vous,
c'est à moi, c'est voilà.
C'est précieux.
C'est précieux. En même temps, il pratique pas, mais en même temps, voilà, Je sais que voilà, ce que je renvoie au quotidien, etc., c'est des petites graines qui se sèment. Et c'est dans cette non-attente, justement, non-exigence. J'aurais bien voulu, hein, je ne vous cache pas. Hein. Mais c'est comme ça, c'est ainsi. Et chacun a des richesses insoupçonnées.
Et puis la vie est longue, ils peuvent aussi s'y mettre.
Complètement, complètement.
Sophie, souvent, en fin d'émission, comme ça, je demande à mes invités s'il y a un dicton, un proverbe, une phrase, quelque chose qui leur parle. Est-ce que spontanément, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit ?
Une phrase que j'aime beaucoup, qui est de... Comment il s'appelle ? Non, je ne sais pas, je me confonds si c'est Jung ou...
D'un philosophe ?
Gurdjieff, oui, tout à fait. Deviens qui tu es. Voilà, cette phrase me parle énormément parce que voilà, l'idée de cette pratique, c'est de venir au centre de soi et de s'apercevoir que on a une grande richesse intérieure et que souvent on se met des pressions. On est dans une société qui est exigeante, où il y a des exigences des fois qui sont un petit peu...
Des codes à suivre.
Oui, des codes, des cadres, des cadres, des exigences trop importantes qui font que les gens ont un mal-être parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, parce qu'on leur demande de faire alors qu'il s'agit tout simplement d'être. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, deviens qui tu es, être. Être soi, venir se rencontrer et venir dans le temple. Et il y a beaucoup, beaucoup à apprendre.
Bon, écoutez, on peut vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite, de belles rencontres, du partage, et puis de grands moments de zénitude, on va dire, à l'unisson avec tous ceux que vous rencontrez.
Merci infiniment, Emmanuel.
Merci, Sophie.
Très belle journée.
Voici.
Merci.
Au revoir.
Merci. Waouh.